Décryptage. Anne Corpet.
Mon fils n'est pas de la chair à canon, il a besoin d'aide. Ce type de message est relayé depuis quelques semaines par des épouses, des mères de soldats russes mobilisés en Ukraine. Mauvais équipement, conditions de vie épouvantables, chaîne de commandement défaillante ou incompétente. Les critiques pleuvent sur les réseaux sociaux au sujet du manque de préparation des troupes envoyées au front. Vendredi dernier, le président russe a mis en scène une rencontre avec des femmes censées représenter les proches des soldats. Une opération de communication qui a peu de chances de mettre un terme à la colère des femmes, alors que l'hiver rend les conditions de vie de leurs proches mobilisés de plus en plus difficiles. Décryptage se penche ce soir sur la mobilisation des mères et épouses de soldats russes. Et avec nous en studio, Anna Colin-Lebedev, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, autrice de « Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique », un livre paru aux éditions du Seuil, indispensable si l'on veut mieux comprendre les racines du conflit. Merci d'être venue jusqu'à nous. Et tout d'abord, je voulais vous faire écouter ceci.
Notre fils nous a contactés, il demande de l'aide, il rampe au milieu des cadavres. Il y a un nombre inimaginable de morts, très peu de survivants, très peu, terriblement peu, peut-être une escouade sur plus de 500 personnes. Tous les autres sont morts, les nôtres ont survécu par miracle. Ils n'ont même pas passé d'examen médical, aucun, pour se faire embaucher quelque part. Il y a des jours d'examen. Et là, ils ont été examinés une demi-heure. Et hop, bon pour le service. Pas d'exercice de tir, pas de maniement des armes, rien du tout.
Des dizaines d'autres femmes montent au créneau, comme celle-ci, Anna Colin-Lebedev. Quelles sont leurs revendications concrètes? Qu'est-ce qu'elles demandent?
C'est très intéressant de se poser justement la question de ce qu'elles demandent. Il y a un message que l'on n'entend pas dans l'espace public, c'est l'idée qu'il faudrait arrêter la guerre, c'est l'idée que la guerre serait injuste. Ce qui est demandé, en fait, c'est des conditions normales ou jugées comme normales de mobilisation et de préparation au combat. C'est-à-dire que le message que l'on entend le plus souvent, c'est « mon mari ou mon fils » est parti accomplir son devoir devant sa patrie, défendre sa patrie. Nous ne sommes pas contre ça, mais en revanche, qu'il soit préparé et qu'il soit équipé, qu'il soit entraîné et qu'il ne soit pas laissé seul sur le front.
Parce qu'actuellement, elles disent que c'est de la chair à canon. Quelles sont les conditions de déploiement des mobilisés ?
Alors en réalité, ce qui est différent dans cette mobilisation par rapport à, par exemple, les premiers mois de la guerre, c'est qu'effectivement, d'une part, nous avons affaire à des personnes qui sont des parfaits civils. Dans le meilleur des cas, il y a une dizaine d'années ou il y a une vingtaine d'années, ces gens-là ont tenu une arme occasionnellement à l'occasion de leur service militaire. Mais pour beaucoup d'entre eux, ce n'est même pas le cas. Alors que, je dirais, dans les premiers mois de la guerre, on n'avait pas affaire à des soldats extrêmement bien préparés, mais néanmoins, il s'agissait de militaires sous contrat qui, a priori, étaient un minimum formés. Donc là, nous avons des personnes qui ont été mobilisées souvent à toute hâte, en quelques jours ou en quelques heures, envoyées dans des centres d'entraînement, pour certains pour une semaine ou deux semaines, pour d'autres pour un petit peu plus longtemps, mais la plupart du temps sans entraînement. C'est-à-dire qu'on a de nombreux témoignages de militaires qui... ont tiré peut-être une fois, dans le meilleur des cas, ont été entraînés à tirer, mais avec des armes légères, des armes à main, alors que ce n'est pas ça qui se déploie sur le front ukrainien. Et puis ensuite, eh bien, ils sont directement lancés sur le front. Souvent, on leur promet d'être en troisième ligne ou en deuxième ligne, c'est-à-dire plutôt à l'arrière, plutôt à la défense. Et en réalité, ils se retrouvent en première ligne. Et non seulement il y a ça, ce défaut de préparation, mais ce qui est absolument flagrant aussi depuis le début de la mobilisation, c'est le défaut d'équipement.
Alors justement, il y a des témoignages de soldats qui se sentent mal équipés, mais aussi négligés, oubliés par leur hiérarchie, comme en témoigne ce soldat russe qui était déployé dans la région de Kherson, abandonné par son commandant. L'unité à laquelle il appartenait a décidé de se replier seul. Un extrait vidéo sorti par Léo Vidal-Géraud.
On était armés de fusils de la dernière guerre, de mitrailleuses avec un seul lance-grenade. Dans notre dernière position, on nous a fait construire des fortifications avec des matériaux datant de l'époque soviétique, périmés depuis longtemps. Le commandement ne nous a pas prévenu que notre rive du fleuve avait été capturée par l'ennemi. On a été attaqué par surprise à l'artillerie. Nous n'avions pas de communication avec le commandant de la compagnie, le commandant du régiment et les autres unités. Pas de soutien d'artillerie. Notre unité ne pouvait rien faire. On ne faisait que mourir sur place. Alors nous avons décidé de nous replier.
Alors en plus de ce manque d'organisation, de ces défaillances de commandement dénoncées notamment par ce soldat, il y a l'hiver qui approche. Il y a déjà des vidéos qui circulent où on voit des soldats quasiment en hypothermie, qui ne réagissent même pas quand les frappes arrivent sur eux. Est-ce que l'arrivée de l'hiver va accroître, à votre avis, la mobilisation des familles ?
Je dirais qu'on est dans une situation catastrophique et qu'il devient de plus en plus pour l'instant. Donc bien évidemment, il n'y avait pas déjà de vêtements chauds qui étaient disponibles pour ces soldats lorsqu'ils sont partis sur le front. Souvent, ils ont dû les acheter. Les familles ont dû prendre des crédits en fait, pour équiper leurs mobilisés, ne serait-ce que de vêtements chauds. Et effectivement, ils sont laissés dans des conditions où ils n'ont pas forcément les moyens de se mettre à l'abri, de se réchauffer. Parfois, ils creusent des tranchées, mais on a aussi des témoignages de soldats laissés avec une seule pelle pour un groupe d'une dizaine de personnes. Donc pour creuser la tranchée, ce n'est pas évident non plus. Et ça s'aggrave bien évidemment de jour en jour, même si les régions qui sont responsables de l'équipement démobilisés font tout état de politique d'envoi de chaussettes chaudes, de gilets pare-balles, de sacs de couchage. Mais je pense qu'il s'agit de légers pansements pour une plaie qui est beaucoup plus profonde.
Et quel est l'écho des protestations de ces mères ou de ces épouses de soldats au sein de la société russe ? Est-ce que la parole des femmes est entendue ? Est-ce qu'elle est considérée comme légitime ?
Alors en fait, nous avons plusieurs groupes de mères de soldats qui souhaitent avoir un écho différent. Nous avons les comités historiques des mères de soldats.
Celles de la guerre de
qui fonctionne depuis le début des années 1990, donc on est même en amont de la guerre en Tchétchénie, qui ont été empêchés de fonctionner depuis plusieurs années, privés de ressources, privés de locaux, privés de possibilités d'exprimer une critique dans l'espace public. Donc eux, ce qu'ils font essentiellement, c'est des sortes de consultations juridiques pour aider les familles à échapper à la mobilisation ou pour faire revenir un soldat mobilisé. Nous avons également des groupes de femmes qui se regroupent soit par point de départ, soit par point d'arrivée, c'est-à-dire soit de la ville d'où partent les mobilisés, soit on arrive à retrouver en fait les familles des proches de votre soldat, enfin de votre mobilisé qui est sur le front et qui vont enregistrer effectivement des vidéos ou envoyer des lettres adressées aux autorités locales. Mais je dirais leur angle est extrêmement étroit, c'est-à-dire qu'ils cherchent à améliorer les conditions sur le front de leurs proches et de leur groupe de proches et se gardent surtout de formuler des revendications générales ou d'accuser au-delà de la région, ne serait-ce que pour se mettre en sécurité elle-même et pour mettre en sécurité ceux qui sont sur le front.
Oui, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas que de contestation sur le fond de ce qui est toujours appelé une opération spéciale. C'est parce qu'elles sont d'accord ou parce que c'est dangereux ?
Alors, je me permets juste d'ajouter le troisième groupe, qui est celui qui est le plus visible dans l'espace public aujourd'hui, qu'on a parce qu'il communique, il y a des conférences de presse, etc. Et je dirais que son importance numérique est sans doute disproportionnée par rapport à ses visibilités dans l'espace public, mais s'il est visible, c'est parce qu'il conteste le pouvoir. C'est le Conseil des épouses et des mères. Et en fait, le Conseil des épouses et des mères, c'est une organisation un petit peu particulière qui nous montre en quoi la contestation venant de groupes de femmes a aussi changé de nature depuis par exemple les guerres en Tchétchénie. Les comités des mères de soldats dans les années 1990 et 2000 critiquaient le pouvoir politique ouvertement et demandaient d'arrêter la guerre en soulignant son caractère injuste et puis au nom du respect des droits humains. Aujourd'hui, ce comité des femmes et des mères est l'émanation d'une organisation complotiste qui critique le pouvoir, mais au nom d'un complot juif orchestrée par des marchés financiers internationaux et qui, en fait, viserait à détruire la population russe et dont le pouvoir en place, le pouvoir du Kremlin, serait complice.
Du coup, ça décrédibilise leur protestation ?
Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus. Premièrement, en fait, aujourd'hui, toute opposition classique est devenue impossible à formuler dans l'espace public.
Dangereuse.
Parce que c'est dangereux. Et c'est pour ça que les comités des maires de soldats qui prenaient la parole dans les guerres précédentes ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Et donc, quelque part, les seules formes d'opposition disponibles aux Russes ordinaires, eh bien, sont ces oppositions-là, complètement obscurantistes, spontanées, qui offrent une grille de lecture. Et il y a beaucoup de personnes qui se saisissent de ces grilles de lecture. Mais je pense que si on laisse encore ces femmes s'exprimer dans l'espace public, c'est précisément pour que le pouvoir politique puisse les décrédibiliser facilement en disant non mais regardez, en fait, celles qui prennent la parole, en réalité, c'est des folles furieuses.
Alors, je l'ai dit en introduction, vendredi dernier, Vladimir Poutine a reçu 17 femmes présentées comme des proches de soldats. En réalité, il semble qu'il s'agissait d'employés de ministères ou de services publics fidèles aux autorités. Est-ce que ça veut dire que le Kremlin a voulu tenter de désamorcer la colère des familles ?
Je ne pense pas. Je pense qu'en réalité, il s'agissait d'un événement rituel de Poutine rencontre le peuple. Et Poutine rencontre toujours un peuple mis en scène. Ce ne sont jamais les vrais ouvriers, les vrais employés des sociétés où il va. Là, c'est des mères qui ont effectivement des enfants qui sont peut-être liés au conflit armé, mais effectivement, elles sont triées sur le volet. Je ne pense pas que ce soit un signe d'inquiétude ni une volonté de rassurer qui que ce soit. Par exemple, Poutine n'a fait aucune annonce au cours de cette conférence de presse.
Il a dit « je vais examiner tel ou tel dossier ».
Exactement, il a fait comme il fait d'habitude, il a examiné les dossiers. La responsabilité n'est toujours pas de son côté, mais du côté des autorités locales. Je pense que le pouvoir, aujourd'hui, ne se sent pas du tout menacé par ces mouvements de mer.
Alors, c'est dans les régions éloignées de Moscou ou dans celles où les minorités ethniques sont majoritaires que les maires de soldats ont commencé à s'exprimer. Et ce, dès le début de la mobilisation, on se souvient fin septembre de manifestations au Daghestan. C'est parce que les soldats mobilisés ont été recrutés en priorité dans ces zones éloigné de Moscou, de Saint-Pétersbourg ?
En réalité, non. C'est-à-dire que la situation est un petit peu différente de la première phase de la guerre où, effectivement, on avait une surreprésentation des régions à forte minorité ethnique. Là, je dirais, le clivage est davantage entre le rural et l'urbain. C'est-à-dire qu'il est facile de recruter, de rafler l'ensemble de la population masculine d'un village. Et si les Daghestanais, les femmes du Daghestan avaient pris la parole, c'est parce qu'en fait, la totalité des hommes de leur village avaient été emmenés au front. Donc je dirais que c'était plus ça qui avait joué. Et la mobilisation, dans la manière dont elle a été conduite, a touché en réalité toutes les régions de Russie, Moscou et Saint-Pétersbourg y compris, qui avaient été complètement épargnés par le recrutement des militaires sur la première phase de la guerre.
Donc il n'y a pas de surreprésentation des minorités ethniques dans les pertes militaires dans la mobilisation ?
Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Mais en réalité, nous n'aurons, et c'est une autre dimension extrêmement tragique de cette histoire, nous n'aurons pas d'informations fiables sur les pertes humaines parmi les mobilisés, dans la mesure où la mobilisation a été conduite tellement à la va-vite, de manière tellement négligente, qu'on n'a pas de liste et qu'un certain nombre de soldats, quand ils tomberont au combat, n'auront jamais le moyen d'être identifiés, en fait.
Est-ce qu'on voit justement ces mères, ces épouses demander où est le corps de leur fils, de leur mari ? Est-ce que certaines vont tenter de retrouver ces corps, comme on l'a vu faire en Tchétchénie dans les années 90 ?
Alors, si vous voulez, ce qui arrange énormément le pouvoir en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, dans la mesure où, de toute façon, l'armée russe ne récupère pas les corps sur les champs de bataille depuis le début de cette guerre. Et à mon sens, ce qu'on voit pour l'instant, parce que le temps joue encore, on n'est pas encore sur une longue durée, eh bien, c'est des familles qui n'ont pas de nouvelles. Qui n'ont pas de nouvelles, mais qui sont pleines d'espoir. Et donc, pour l'instant, elles ne vont pas partir chercher un corps sur le champ de bataille. Mais je dirais que même sur une durée plus longue, dans la mesure où ces soldats ne sont pas identifiés, certains n'ont jamais été inscrits dans les registres militaires et ont pourtant été envoyés au front, eh bien, ils ne seront jamais déclarés morts. Ils seront portés disparus pour des dizaines d'années.
Il y avait eu une vidéo virale mi-septembre qui montrait le chef de la milice Wagner recruté dans une prison russe. Yevgeny Prigojine continue d'aller chercher des recrues dans les établissements pénitentiaires.
En effet, on continue à avoir un recrutement assez massif dans les colonies pénitentiaires, ce qui montre que c'est fait avec l'aval du pouvoir. Et je dirais que
c'est contraire à la loi.
Et c'est absolument illégal, bien évidemment. Et ça n'arrange pas du tout les autorités, ni militaires, ni les autorités pénitentiaires. Mais toujours est-il que ces soldats ne connaissent pas un sort meilleur que les mobilisés sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont à peine plus entraînés, ils sont peut-être un tout petit peu mieux équipés, ils ont peut-être des gilets pare-balles, mais la mortalité semble être également incroyablement élevée dans ces groupes-là.
Et les familles de prisonniers, elles sont tenues au courant du déploiement de leurs proches ? Elles sont mobilisées, elles aussi ?
Alors, les prisonniers en Russie sont souvent issus de milieux sociaux un peu plus compliqué et donc l'intensité du contact avec les familles est très variable, mais nous avons surtout en fait les familles des survivants qui vont prendre la parole et dire témoigner de ce qu'ils entendent, mais pour l'instant je dirais les voix des familles des prisonniers engagés dans le groupe Wagner et les familles démobilisées ne se croisent absolument pas. Ce sont deux groupes sociaux qui préfèrent ne pas se voir.
Alors, vous parliez tout à l'heure de la différence rurale-urbaine. Il y a aussi une différence peut-être de classe. En tout cas, une femme sur Internet, sur les réseaux sociaux, s'indigne du fait que ce sont en priorité les pauvres qui sont recrutés. Écoutez, cette femme, son indignation a été relevée sur les réseaux sociaux par Léo Vidal-Géraud.
L'administration nous ignore.
Parce que leurs enfants, à eux, ils sont à la maison.
Nous vous demandons de l'aide pour les sortir de là. Nous avons besoin d'aide juridique, nous avons besoin d'aide médicale et nous avons besoin que vous preniez la situation en main.
Alors, il y a cette scission entre classes privilégiées qui échappent à la mobilisation et puis les autres.
Ce n'est pas un clivage entre les riches et les pauvres, parce qu'en réalité, il y a énormément de cols blancs qui ont été mobilisés, juste raflés dans la rue, vous voyez, parce qu'ils étaient là, ils étaient dans un restaurant, ou ils étaient au travail, ou voilà, ils passaient par là. Mais en revanche, ce que l'on voit, c'est un mécontentement à l'égard des élites. Ce que mentionne cette femme, c'est les élites dirigeantes qui se sont arrangées, et effectivement, c'est le cas, pour mettre leurs enfants à l'abri de la mobilisation.
Elle demande de l'aide, mais à qui elle s'adresse ?
Généralement, elle s'adresse aux autorités locales. Parce que ce que le pouvoir russe a fait assez finement, et c'est une reconduction d'une pratique qu'il avait eue au moment du Covid, c'est de reporter la totalité de la responsabilité sur les régions et les gouverneurs des régions. Responsabilité sur la tenue de la mobilisation, responsabilité de l'entraînement, responsabilité de l'équipement. Donc dès qu'il y a une défaillance, on va critiquer les régions. Et quand on demande de l'aide, et bien souvent on s'adresse à Poutine. Hein. Poutine qui est censé n'être au courant de rien et peut-être désireux, aux yeux de ses maires, de corriger les dysfonctionnements.
Et est-ce qu'il y a une forme aussi de contestation dans les familles de militaires professionnels ? Est-ce que les soldats enrôlés volontairement commencent aussi à grogner sur leurs conditions de déploiement ?
Ça, on l'avait déjà dès le début de la guerre, en réalité, parce que les conditions de déploiement étaient très... très mauvaise et explique en grande partie l'échec de l'armée russe.
Oui, on parlait de problèmes logistiques.
Sur le terrain, on parlait de pas mal de choses. On parlait aussi du manque de préparation et du manque de corps officiers et du manque de maîtrise en fait de la situation sur le terrain. Alors, ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, comme problème spécifique, c'est que le décret de déclaration de mobilisation a bien été signé par Vladimir Poutine, mais même si le pouvoir déclare aujourd'hui que la mobilisation est terminée pour cette phase, il n'y a jamais eu de décret clôturant la mobilisation.
Ça veut dire qu'elle peut reprendre à tout moment ?
Non, ça veut dire surtout que elle peut reprendre à tout moment parce qu'elle n'est pas terminée, bien évidemment, mais aussi pour les soldats sous contrat. En fait, le décret sur la mobilisation supprime les fins de contrat, enfin, ajourne les fins de contrat jusqu'à la fin de la période de la mobilisation et de l'opération spéciale. Ce qui veut dire que les soldats professionnels, qui normalement avaient terminé la durée de leur contrat et devraient pouvoir rentrer chez eux, en réalité sont coincés sur le front.
Très rapidement, pour terminer, est-ce que ce dénuement... ces conditions épouvantables de déploiement peuvent expliquer en partie la violence qui est commise contre les civils.
ça ne peut être qu'une partie de, qu'une des données du problème. Et je dirais que les mobilisés aujourd'hui ne sont pas en situation où ils occupent des territoires ukrainiens. Ils sont en situation où ils sont en première ligne du front et se prennent sur eux le feu de l'artillerie ukrainienne et meurent au final sans avoir vu d'Ukrainiens.
Anna Colin-Lebedev, merci. Je rappelle que vous avez écrit « Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique ». C'est paru aux éditions du Seuil et vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre. Merci à Hélène Avril qui a réalisé cette émission et à Éléonore Krenik qui m'a aidée à la préparer.